Radio Campus Lille, il est 11h.
Here it comes again, taste of jagged glass and rusty can. There are just black holes where the stars would be watching. Just black holes where the stars should have been. Plumes of dirt caress the urine colored sun. Swarms of angels come to kill your sons. And there's nothing but black holes where the stars should have been. Nothing but black holes where the stars would be watching.
Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Campus Lille sur le 106,6 de la bande FM en DAB+ et sur campuslille.com. C'est l'émission Palud numéro 1094 consacrée de 11h à midi à notre 865e arrache-cœur. Présentation de quelques nouveautés littéraires. Sous réserve d'imprévus négatifs, je parlerai aujourd'hui de Rue des Prairies, un texte de René Lefebvre datant de 1955 mais réédité aux éditions L'Échappée dans leur collection Paris Perdu. Cela sera suivi de Rosa, un texte de Maurice Ponce, daté lui de 1967, mais qui reparaît aux éditions Christian Bourgois dans leur collection Satellite. J'enchaînerai avec Nous tous sommes innocents, un texte de Cathy Jurado, paru initialement en 2015 aux éditions aux Forges de Vulcain et qui reparaît sous la collection Fiction. Et enfin, je terminerai avec L'amour est demeuré plus fort, un texte de Julien Vitaud disponible aux éditions de L'Ogre. C'est la dernière émission de cette saison 2024-2025. Et après le générique d'introduction, nous écouterons Juliette Gréco avec Les enfants qui s'aiment.
Taste of jagged glass and rusty can. Qui s'aiment s'embrassent debout contre les portes de la nuit, et les passants qui passent les désignent du doigt. Mais les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. c'est seulement leur ombre qui tremble dans la nuit. Excitant, la rage des passants, leur rage, leur mépris, leur rire et leur envie. Les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne. Ils sont ailleurs, bien plus haut que le jour, bien dans l'éblouissante clarté de leur premier amour. Ils sont ailleurs, bien plus loin que la nuit, bien plus haut que le jour, dans l'éblouissante clarté de leur premier.
L'énormité de son erreur fut peut-être le mobile qui l'incita à ne rien faire pour la cacher. Sa vie était irrémédiablement gâchée. À se le répéter, elle trouvait une espèce de plaisir morose et imbécile. Neveu n'avait plus qu'à constater le désastre et à agir à sa guise. Tout était dit. L'arrivée soudaine de son mari ne parut même pas la surprendre. Elle l'accepta sans étonnement. Puisqu'il devait venir, le moment importait peu, même si son intervention était quasi miraculeuse à travers le temps et l'espace. La sautier, qui naturellement était présente, se mit à pousser les hauts cris. « Comment que vous avez fait pour venir si vite? C'est qu'il y a un bout depuis là-bas. »« J'ai pris l'avion, » dit Neveu. « L'avion ?» s'ébahit la vieille qui n'en espérait pas tant. « Ainsi voyez donc. » Les deux petits assaillaient leur père qui ne posait pas sa mallette et gardait son chapeau. La veuve aurait bien voulu que la conversation s'engageât entre Henri et Yvonne, mais rien ne venait et elle dut se résoudre à partir en invoquant n'importe quel prétexte. « Qu'est-ce qui sent le brûler comme ça ? » dit-elle en dressant le nez. « Je parie que c'est mon avarin qui colle. » Et elle fila, suivie des deux gosses aguichés par la perspective d'une catastrophe ménagère. Alors il s'approcha du berceau et regarda le tout petit qui dormait dans une imperturbable quiétude, ses deux poings minuscules bien serrés sur son linge. L'enfant n'était pas un beau bébé, Neveu le constata avec une espèce de joie obscure. Il ne pensait pas à lui chercher une ressemblance ou un air de famille, sachant bien qu'il était trop tôt pour discerner quelque chose dans les traits mal formés du petit visage fripé. Mais ce n'était pas un beau bébé, pas du tout du modèle robuste dont Neveu avait été fier dès la naissance des deux autres. L'idée qu'on pût lui attribuer la fabrication de ce foutriquet le fit sourire, et une sorte de vacillement qui avait jusqu'alors affecté sa pensée cessa brusquement. Il entendit grincer la porte et se retourna. Belgrand était sur le seuil, la bouche stupidement ouverte et les mains encombrées d'un bouquet entortillé de papier transparent. L'angoisse comique de l'acteur qui oubliait son texte se lisait dans ses yeux. Il tendit le bras vers le contremaître, comme si les fleurs qu'il lui présentait devaient justifier son entrée. mais le ridicule de son geste dut lui apparaître aussitôt, car il se décida à parler. « J'ai appris à l'usine, dit-il, que Madame Neveu avait un fils. Je n'ai pas voulu laisser passer l'événement sans lui présenter mes vœux. » « Oui, dit Neveu. C'est bien la moindre des choses, ajouta Belgrand, retrouvant un peu de son aplomb. Je n'oublie pas que c'est vous qui m'avez fait entrer à la boîte. Je m'en voudrais de ne pas vous témoigner ma sympathie, en l'occurrence. Oui, dit Neveu. Belgrand, complètement rassuré, fit trois pas dans la pièce. Vous me permettez, demanda-t-il, de regarder le poupon ? Dans son lit, Yvonne n'avait pas bougé. Elle semblait étrangère à ce qui se passait près d'elle et fixait obstinément le plafond. « Il est ravissant, dit le dessinateur après un simple coup d'œil au berceau. « Quoi ? Dit Neveu. « Un charmant petit bonhomme, appuya Belgrand. Il est ravissant. » Alors Neveu n'y tint plus. Il rigola, et si franchement que l'autre en fut décontenancé. Il feignit de remarquer seulement que le contremaître ne s'était pas débarrassé et s'excusa. « Mais vous venez à peine d'arriver, je ne veux pas être opportun. Au revoir, chère madame, et prompt rétablissement. » Il tendit la main à Neveu. « Tous mes compliments. » « Oui, » dit Neveu. Quand Belgrand eut refermé la porte, le contremaître eut encore un rire et répéta pour lui-même « Ravissant, ravissant. » Voilà un extrait de cet ouvrage de René Lefebvre, intitulé « Rue des Prairies », qui était originellement paru en 1955 et qui reparaît aujourd'hui dans la collection Paris perdu des éditions de L'Échappée. C'était en 1955 aux éditions Gallimard que René Lefebvre faisait paraître cet ouvrage. C'est un texte qui a été adapté à l'écran au cinéma en 1959 et qui offrira, comme nous le dit la quatrième de couverture, à Jean Gabin l'un des grands rôles de sa carrière grâce à des dialogues taillés sur mesure par Michel Audiard. René Lefebvre, il a donc un parcours d'écrivain, mais il a aussi et surtout un parcours d'acteur, comme nous le rappelle dans sa longue préface intitulée « Le bonheur de Paris », Édouard Jacquemou, qui revient sur le parcours de ce personnage qui a été salué pour ses talents littéraires, pour sa plume particulièrement alerte, et qui a donc aussi cette carrière cinématographique. C'est la première fois, je pense, que je lis du René Lefebvre et je me suis absolument régalé. Je vous invite d'office à aller vous procurer Rue des Prairies, qui vous permet effectivement de plonger dans ce Paris gouailleur des années 50, avec un texte qui repose sur une tragédie finalement assez commune, très classique, celle du mari trompé. Vous avez découvert le triangle amoureux dans l'extrait que je vous ai lu. On voit Henri Neveu, qui est contremaître, qui se trouvait alors au Maroc, revenir précipitamment dans le petit appartement parisien qu'il partage avec sa femme et leurs deux enfants, Odette et Louis. Il est rappelé par la naissance du troisième enfant, mais quelque chose, évidemment, lui a mis la puce à l'oreille. Les dates ne concordent pas. Cela fait trop longtemps qu'il est parti pour qu'on puisse supposer qu'il est le père de cet enfant. Et il est effectivement le fils, celui qui est né, le fils de ce Belgrand qui est un personnage qui va disparaître assez rapidement de l'intrigue. Cet homme a séduit de manière assez misérable l'épouse d'Henri, qui a cru à ses mensonges. Il lui a fait croire que si Henri aimait autant partir à l'étranger sur ses chantiers, c'était principalement parce qu'il y entretenait des relations extra-conjugales. Et la femme, donc Yvonne, a succombé aux avances de cet homme. Elle s'en veut désormais mortellement, mais l'enfant est là. Et tout le monde s'étonne de la réaction, somme toute assez calme, d'Henri Neveu, qui, lorsqu'il revient, éclate de rire, plus qu'il ne pousse des hauts cris. Mais cela aura des conséquences dévastatrices sur l'ensemble de la famille, puisque à partir de ce moment, Henri, qui décide malgré tout de rester auprès de cette femme et de s'occuper de l'ensemble du foyer, donc des trois enfants, va également prendre la décision radicale et définitive de ne plus adresser la parole à son épouse. Un silence qui va s'imposer dans le foyer, dans la famille, qui va évidemment amener aussi Yvonne, consciente de son erreur, de sa culpabilité en quelque sorte, à se murer elle-même dans une forme de silence et à abdiquer en partie la place qu'elle occupait dans cette famille. Elle laisse finalement son époux et les enfants prendre toute la place dans la maison et en s'effaçant, s'efface aussi en quelque sorte de l'esprit de ses propres enfants. Alors le texte pourrait être concentré exclusivement sur les réactions de cet homme, la manière dont il agit. L'homme, Henri Neveu, va plonger malgré tout dans une forme de destruction personnelle puisqu'il se met à boire. Il va perdre un certain crédit auprès de son employeur. Il va être de moins en moins fiable. On va le rétrograder jusqu'à même devoir le faire démissionner, le licencier par ses erreurs et par son alcoolisme. Et cet homme, qui était pourtant un homme qui était emporté par un élan vital assez impressionnant, semble sombrer progressivement, en même temps que l'histoire suit le développement et la croissance des trois enfants. On va suivre le destin de Louis, qui va devenir boxeur, d'Odette, qui va travailler dans des cabarets, et puis du petit garçon Fernand, ce fils non désiré, cet intrus en quelque sorte. Et le texte s'amuse énormément sous la plume de René Lefebvre à battre en brèche nos conceptions classiques et habituelles de la notion même de famille, puisque ce n'est pas nécessairement les enfants nés de votre propre sang qui seront les plus présents lorsque les problèmes surgiront et surtout lorsque, au cours de la vie, vous serez amené à vous appuyer sur eux. C'est un texte qui est aussi porté par une langue qui donne libre cours à ce parler argotique parisien. On sent que René Lefebvre se plaît énormément à nous le retranscrire dans les dialogues savoureux qui peuvent se dessiner entre les différents personnages. On suit évidemment aussi les carrières successives des trois enfants. Avec un boxeur qui va se laisser peu à peu tenter par une forme de paresse qui lui sera évidemment d'un point de vue professionnel fatal. Une jeune femme qui développe un numéro assez étrange, plutôt érotique, mais un érotisme froid, puisqu'elle joue sur le contraste entre les plaisirs de la chair et la manière dont elle les narre sur le plateau du cabaret, la scène du cabaret où elle se rend et qui elle-même va se laisser entraîner dans une aventure amoureuse qui l'amènera très loin du foyer. Et puis ce Fernand, qui est un bon élève, un enfant studieux et qui, lui, va prendre à bras-le-corps la charge familiale, ce secret honteusement gardé, dont on découvrira à la fin qu'il ne l'était finalement pas tant que cela. Rue des Prairies, un texte de René Lefebvre, à nouveau disponible aux éditions L'Échappée dans leur collection Paris perdu.
To escape the prison of this fleshy prison, to escape into milky nimbus, blurry-eyed, light-headed, to erase dreams, memory, visions, to ultimately forget every word, every face, every nightmare, a permanent amnesia which foregoes responsibility. I'm forced to repeat even the most repellent occurrence. My sanity insists upon it, insists upon expulsion, purgation, insists I wring from every cell the poison thoughts, polluted deeds, malicious intentions that would, if not puked forth, riddle me with disease, with sickness, with death. My incredible well-being is a testament to the curative of confession, the healing power of words. And if it makes you sick, so much the better.
Vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille sur le 106,6 de la bande FM en DAB+ et sur campuslille.com. Et l'on vient d'écouter Lydia Lunch interpréter Escape. Assise sur un haut tabouret devant ses tonneaux, Rosa, la tavernière, remplissait les bocs au robinet. On raclait la mousse avec une réglette et les déposait sur le large comptoir de bois mouillé avec une satisfaction visible. Auprès d'elle, un homme de peine, en tablier bleu, rinçait les verres dans un bac. Les deux officiers, que certains soldats reconnurent aisément malgré leur travestie civile, se défirent de leur pelisse et prirent place à une petite table carrée au fond de la salle. Ils commandèrent de la bière à la serveuse et se mirent en devoir de dévisager attentivement la patronne. C'était une femme superbe, en pleine maturité, quelque peu plantureuse. Elle avait un visage de feu, de grands yeux noirs et ardents, la bouche rouge et charnue, une exubérante chevelure noire laissée à la sauvage sur les épaules, mais dans laquelle elle avait piqué avec un peigne une rose rouge épanouie. Elle transpirait, et une mèche rebelle restait collée sur son front et sur sa pommette droite. Elle était vêtue d'une ample robe noire, de belle étoffe soyeuse, suffisamment décolletée pour laisser découvrir une gorge abondante, rebondie, palpitante, qui tendait comme une voile le mince tissu de son corsage. Les deux commandants, parfaitement conscients de ce que leur présence avait d'insolite dans cette taverne à soldats, se faisaient aussi discrets que possible. Ils buvaient peu et ne parlaient pas. Ils observaient les groupes joyeux mais finalement paisibles qui se formaient et se déformaient autour des tables, le tournoiement incessant des serveuses en tablier blanc parmi les uniformes rouges, le manège fébrile de Rosa qui remplissait les bocs, en raclait la mousse et encaissait l'argent. Glupf, pour sa part, étudiait la topographie exacte de la salle, la position des tables et des bancs par rapport aux portes et aux fenêtres. Outre la porte vitrée de l'entrée, la taverne comportait une étroite porte intérieure, située derrière le comptoir, et un escalier en colimaçon qui conduisait à l'appartement de la patronne. Il examina longuement le haut poêle de faïence, sorte de coffre-fort de carrelage vert, qui ronflait doucement, et dont le tuyau, curieusement coudé, se dévoyait dans la maçonnerie au ras du plafond. Pour toute décoration, le mur de fond de la taverne s'ornait d'une hure de sanglier, impressionnante, il est vrai. Les autres étaient diversement garnis d'assiettes alsaciennes et de récipients de cuivre. Tard dans la soirée, après que bon nombre de militaires eurent quitté les lieux pour regagner la caserne, Rosa, profitant d'un moment d'accalmie, s'approcha de la table qu'occupaient les deux bourgeois. « Bonsoir, messieurs, leur dit-elle, sans servilité ni la moindre insolence. Vous prendrez bien pour finir un verre de schnick ou de schnapps, peut-être. »« Va pour le schnapps, répondit le commandant Orchi, qui tenait à faire bonne figure devant une aussi belle personne. » Il n'osa pas ajouter « Vous prendrez bien un verre avec nous », mais la patronne tint à honorer ses clients d'un soir en les servant elle-même. Elle revint donc vers eux, tenant d'une seule main deux petits verres à pied en cristal étoilé, glissés entre ses doigts comme des bagues rutilantes, et une longue bouteille blanche au col effilé. Avec des gestes rapides et précis, elle déposa les verres sur la table et, inclinant la bouteille dont elle serrait fermement le goulot contre la paume avec le seul pouce, elle versa deux rasades d'une eau-de-vie transparente qui embaumait la couette d'Alsace. Les verres étaient remplis si ras que le liquide formait en surface une petite lune bombée. Mais pas une goutte ne déborda. Dans le mouvement et sous l'effort, Rosa tendait entre les deux hommes son bras nu et potelé. Le jeu des muscles y dessinait des dépressions et des éminences fascinantes. À la saignée, on pouvait voir saillir un gracieux enlacement de veines bleutées. En même temps, comme dans son application, Rosa s'était légèrement inclinée au-dessus de la table pour servir, elle offrait au regard des officiers supérieurs son cou nu, tendu et la provocante échancrure de son corsage. Entre ses seins superbes, il voyait se perdre une rivière de peau pâle, légèrement humide, légèrement duveteuses, qui semblaient les baigner comme deux îles tropicales, deux îles frémissantes, irriguées de sang et de vie, qui couvraient un feu exubérant. Voilà un extrait de ce texte de Maurice Ponce qui s'intitule Rosa et qui date de 1967 et qui est reparu aux éditions Christian Bourgois dans leur collection de poches Satellite. Ce texte de 1967, c'est sans doute celui qui a été le plus célèbre de Maurice Ponce, qui est également très connu pour son livre Les Saisons. Enfin, ce texte Rosa a d'ailleurs été traduit dans plusieurs autres langues. Et on le revoit sortir parce que 2025 marque également le centenaire de la naissance de Maurice Ponce. Mais de manière générale, comme l'indique l'argumentaire de presse, les éditions Christian Bourgois ont décidé de poursuivre la réédition de l'intégralité de l'œuvre de Maurice Ponce dans cette même collection Satellite. On peut citer en 2024 la sortie du premier roman de Maurice Ponce qui datait de 1951, Métrobat. Alors qui est Rosa ? Eh bien vous l'avez entendu, c'est une tenancière. Nous nous trouvons dans une petite ville à la fin du siècle dernier, le 19e, penserais-je, dans la principauté de Vasclam, et c'est dans une ville de garnison que nous nous trouvons. Enfin, dans cette ville, on voit disparaître un certain nombre de soldats, des soldats de tout ordre et de toute catégorie, des gradés, un adjudant, un capitaine, sans qu'il soit jamais possible de déterminer où ils sont partis et ce qui a pu provoquer leur décision de s'en aller. S'agit-il de kidnapping ? S'agit-il de départ volontaire ? L'obscurité règne sur ce mystère que le colonel comte de Feldspass va décider de lever. Il va, par une enquête minutieuse et accompagné d'un certain nombre de gradés, porter progressivement ses soupçons sur la belle Rosa, qui tient donc ce cabaret dans lequel se rendent régulièrement les soldats afin d'y boire et de s'y détendre, mais surtout, vous l'avez bien compris, pour profiter visuellement des charmes et des beautés de la belle Rosa, la plantureuse Rosa, qui, lorsque dans l'extrait que je vous lis, elle décide d'accueillir et de servir à boire à deux hommes déguisés, ne sait pas évidemment que ceux-ci sont en mission secrète afin non seulement d'observer les lieux, mais surtout de déterminer la culpabilité probable de cette femme. Dans quelle mesure fait-elle partie d'un jeu qui amènerait les forces adverses, hostiles, à faire partir ou disparaître ces hommes ? Dans quelle mesure est-elle à la tête d'un réseau qui leur permettrait de s'enfuir des obligations militaires ? Tout cela, évidemment, est au cœur même du livre de Maurice Ponce, Rosa. Enfin, c'est un texte qui va petit à petit, évidemment, jouer de cette dimension érotique. On sent bien que la notion d'amour et d'amour sensuel, d'amour physique, est au cœur même du texte. Cette Rosa aime l'amour. Elle aime la sexualité et elle aime accueillir dans son lit chaque soir ou en fonction de son bon plaisir des hommes qu'elle ressent ou qu'elle comprend être tourmentée, inquiétée, ayant besoin pendant quelques instants, voire une nuit complète, de la présence évidemment amoureuse, sensuelle et très attentionnée de la tenancière. Mais c'est un texte qui flirte aussi beaucoup avec le fantastique, puisque va se préparer en secret une forme de mission qui va être confiée à un ensemble d'individus pour essayer de déterminer cette culpabilité. Il faudrait prendre sur le vif cette femme qui nie non pas avoir couché avec les hommes qui ont pu disparaître, mais n'être en aucune façon responsable de leur disparition, puisqu'elle assume, à chaque fois qu'elle s'est réveillée, ne pas les avoir trouvés dans sa chambre, et ces hommes étant bien évidemment libres de leurs gestes, ils ont dû nécessairement quitter son appartement. Ne peut vous laisser imaginer ce que nous découvrirons sous la plume de Maurice Pont. C'est un texte qui est à la fois porté, je le disais, par cette dimension très érotique et par son entremêlement fantastique, mais aussi par un humour qui irrigue l'ensemble du texte et qui joue aussi beaucoup avec la déconvenue de tous ces hommes qui portent sur cette femme plantureuse un regard énamouré, un regard avide également. Enfin, ils sont conscients du sex appeal qui se dégage de cette femme et savent aussi peut-être dans quelle mesure ils en seront éternellement privés, car Rosa ne se donne pas à tout le monde, mais uniquement à ceux qu'elle a sélectionnés. Voilà, c'est un texte qui dans une postface de Maurice Pons exposé également sur sa notoriété, sur Maurice Pons s'amusant du fait que le texte avait été assez fraîchement accueilli dans sa maison d'édition de l'époque, avant de rencontrer un succès inattendu et international. Et Maurice Pons s'amuse également des différentes couvertures qui avaient pu être données de ce texte, dont il voulait qu'il s'appelât, dans la pure tradition du roman français du XVIIIe siècle, chronique fidèle des événements survenus au siècle dernier dans la principauté de Vasclam, comprenant des révélations sur l'étrange pouvoir d'une certaine Rosa qui faisait à son insu le bonheur des plus malheureux des hommes. Je vous invite à découvrir ce très beau texte de Maurice Pons, Rosa, à nouveau disponible aux éditions Christian Bourgois dans leur collection Satellite.
Secrets that I do not know, I cannot understand them. A wanted series printed over, what are his defenses? The battle bracelets do not fit my favorite gladiator. A fanatic hero piously has to be a faker. A dangerous creator, a master in his mortar cave. I am a savage violator, a varlet in whose sand and vein.
Vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille sur le 106,6 de la bande FM en DAB+ et sur campuslille.com. Et l'on vient d'écouter une chanson de Nico intitulée Innocent and Vain. Peu à peu, alors, le corps de Jeannot s'est voûté, comme une vieille. On ne voyait plus que ses épaules, immenses, courbé comme deux buttes qu'il aurait dressées entre lui et le monde autour. Sa carrure de paysan solide en imposait davantage depuis qu'il avait commencé à faire ses rondes dans les parages de la ferme pour repousser les étrangers. Au village, on a commencé à le craindre. Il était musculeux, tendu, animal, et ses yeux profonds lui faisaient deux trous noirs sur le visage, comme deux puits jumeaux. Il refusait même à Odette de venir le voir quand il n'avait pas le temps d'aller lui-même la chercher pour une promenade. Pour rien au monde, il n'aurait voulu qu'elle voie sa famille ainsi. Il ne quittait plus son fusil. C'est ainsi que les Jehans refermaient lentement sur eux les portes des passereaux. En septembre, Élie avait fait une apparition inattendue à Maldict. Il voulait voir Claudine. Il l'avait fait savoir par Odette, qui était venue au passereau un matin, malgré l'interdiction de Jean. Comme celui-ci était au champ, Claudine avait offert un café à Odette et elles avaient parlé des lits. Les deux femmes avaient convenu que Claudine irait en ville vers midi, sous prétexte de faire quelques courses. On ne sait pas ce qui passa par la tête de Claudine ce jour-là, mais elle décida finalement de ramener Élie à la maison pour le souper. Voulait-elle braver les interdits de Jeannot et le provoquer ? Avait-elle simplement espéré que l'histoire s'arrangerait et qu'on pourrait convenir ce soir-là d'un mariage ? Peut-être Élie a-t-il simplement posé comme condition au mariage d'être reçu dignement chez les Jehan et de visiter la propriété. Toujours est-il qu'ils ont rappliqué tous les deux à la tombée de la nuit, enfin tous les trois, parce qu'Élie avait amené son chien de chasse qu'il a attaché dans la cour. Ils sont entrés en silence et se sont installés devant le feu. Jeannot et le père n'étaient pas encore rentrés. Claudine était tendue car elle redoutait leur retour. La mère, elle, ravie de la compagnie, bavardait avec vivacité depuis la cuisine où elle préparait le repas. Pensez, un invité, on n'en avait pas eu depuis des lustres. Il fallait bien l'assaisonner, celui-là. Parce que si en plus il lui prenait sa Claudine, ça serait vraiment un gars à bénir, cet Élie. Le père est rentré le premier. Il était sale et de mauvaise humeur, comme d'habitude. Il a quand même salué Élie en grognant et s'est assis avec eux près du feu. Pendant un certain temps, le prétendant a tenté de faire un semblant de conversation, évoquant les nouveaux tracteurs, l'été qui avait été bon pour les moissons, le beau temps pour la chasse. Élie n'était pas un mauvais bougre, au fond. Il faisait ce qu'il pouvait. Mais il a fini par renoncer quand Martin s'est brusquement levé pour sortir de nouveau, sans explication, les plantant là tous les trois. Claudine l'a regardé traverser la pièce et refermer calmement la porte derrière lui. Elle était verte de rage. Cependant, Joséphine tenait à son invité. Elle a tout de suite tranché vif le gros morceau de silence charnu qui s'était installé et elle a annoncé le repas. Ils se sont mis à table et Paul est même descendu. Elle était souriante et a demandé à Élie comment était la vie à Pau, s'il viendrait la chercher quelquefois quand Claudine y serait installée avec lui. Claudine a rougi et Élie s'est un peu détendu. Ses joues poupines rougeoyaient dans la flamme et ses yeux bleus luisants se plissaient dans l'engourdissement lié au vin et à la digestion. Joséphine se régalait autant à l'observer qu'à manger. Elle ne pouvait détacher son regard de ses doigts fins et blancs de médecin qui maniaient les couverts avec délicatesse et précision, comme s'il s'était agi d'un scalpel. Une telle élégance à son souper la remplissait d'aise et la rassasiait. Elle en aurait des souvenirs à ruminer pendant plusieurs jours. À ce moment-là, Jeannot est arrivé. Il a ouvert la porte d'entrée comme celle d'un saloon ou comme quelqu'un qui apporte la nouvelle d'un fléau et qui sait qu'il va répandre la désolation. Il semblait ébranlé. D'une voix blanche, il a demandé à Élie de venir voir quelque chose dans la cour et interdit aux femmes de sortir avec eux. Elles sont donc restées là, assises en silence, à se regarder et à contempler leurs assiettes, attendant que quelque chose se passe. Voilà un extrait de cet ouvrage de Cathy Jurado, intitulé « Nous tous sommes innocents », et dont une première version, si j'en crois le site internet des éditions aux Forges de Vulcain, est déjà parue en 2015, mais qui reparaît donc en cette année 2025 dans la collection Fiction. Enfin, dans l'argumentaire de presse, Cathy Jurado nous est présentée extrêmement rapidement enfin, comme une enseignante qui réside à Besançon et « Nous tous sommes innocents » comme son premier roman. On se trouve dans la fin des années 50, plus précisément en 1958, dans cette ferme qui s'intitule Les Passereaux et qui est tenue par la famille Jehan, enfin, le père Martin, la mère Joséphine, la fille aînée Claudine qui est courtisée par Élie, un médecin de la ville de Pau, enfin, qui est donc venu dîner à la maison et dont on pressent qu'il vient faire sa demande en mariage. Ensuite, on a Jeannot, enfin, qui est censé reprendre la ferme puisqu'il en est le seul homme susceptible de prendre la succession de son père, mais lui-même a longtemps rêvé d'autre chose puisqu'il avait été repéré par l'instituteur et qu'il avait espoir lui-même de devenir enseignant, un espoir qui a été assez rapidement douché par les réactions de ses deux parents. Et puis il y a la petite dernière, Paul, une femme un peu différente, un peu bizarre, ébranlée dans sa tête, qui va régulièrement consulter une sorte de psychiatre qui se trouve pas très loin, emmené par son frère qui tient beaucoup à elle et qui aimerait la guérir. Cette famille, les Jehans, est une famille qui n'a pas nécessairement bonne réputation dans le village où ils habitent. On les craint, on les redoute, surtout le père Martin, un homme assez bougon, taiseux, toujours accompagné de son fusil de chasse. Et a priori, lorsque le texte s'ouvre, on peut imaginer que Jeannot sera son contraire. Mais petit à petit, on va voir que la malédiction qui pèse sur cette famille, qui est une sorte de réécriture des Atrides, cette malédiction ne peut qu'amener à la perte irrémédiable de leur sérénité et de cette innocence dont ils sont finalement totalement dénués. Il y a derrière tout cela un secret que l'on découvrira assez tardivement dans le texte, qui est lié à la mère elle-même. Mais en tout cas, à la fin de ces années 50, cette famille se replie de plus en plus sur soi. Elle subit déjà une sorte de pression intense liée à la personnalité acariâtre et plutôt revêche de la fille aînée Claudine, qui semble veiller étroitement sur sa mère, qui a des sautes d'humeur régulières dans la ferme familiale, qui ne cesse de se heurter à son père et qui cherche visiblement à empêcher la mère Joséphine de trop parler, comme si la possibilité que le secret s'ébruite était sa seule inquiétude. Et de l'autre, on va voir et petit à petit constater à quel point Jeannot est finalement contaminé par cette malédiction, comment il va se transformer. Lui qui était très amoureux de cette jeune Odette dont il désirait demander la main, mais qui s'est vu éconduire par des parents qui n'imaginent absolument pas donner leur fille à ce fermier. Il n'a pas suffisamment d'argent, pas suffisamment de prestance. Et cette éviction va profondément peser sur la transformation de Jeannot lui-même. Et de l'autre, c'est un homme aussi qui est finalement brisé dans ses aspirations profondes, dans ce désir de connaissance, de savoir, de culture qui l'habitait lorsqu'il était enfant et qu'il n'a pu mener à terme à cause de cette interdiction parentale et du sentiment qui pesait sur lui, de l'obligation qui lui était faite de rester auprès de ses parents, de ne pas les abandonner et de prendre la suite de ce père qui a su faire fructifier à un moment l'affaire elle-même, notamment en s'intéressant très tôt à tous les progrès techniques qui ont pu être réalisées dans les récoltes, lui-même s'équipant avec des machines dernier cri, mais qui ne pourra pas empêcher l'effondrement de cette ferme, son appauvrissement inéluctable, son repli sur soi, son ratatinement. On a vraiment l'impression d'assister au rabougrissement à la fois du domaine et de cette famille elle-même qui, en se repliant, ne cesse finalement de lécher ses propres plaies et de se complaire dans cette malédiction qui semble l'amener en droite ligne vers un mur contre lequel ils sont censés se fracasser. Le texte, plus il avance, plus il montre à quel point ce mur sera violent, à quel point il va frapper chacun des protagonistes et combien il est finalement impossible d'échapper à ce destin. C'est un texte assez sombre, assez noir, qui se met en place sous la plume de Cathy Jurado, mais qui donne aussi à voir un monde particulier, celui de ce monde rural des années, de la fin des années 50, et qui va aussi donner à entendre les dégâts d'une guerre, une guerre qui ne dit pas son nom, mais à laquelle va participer en quelque sorte Jeannot lui-même, lorsque, à un moment où il tente d'échapper à l'atmosphère éprouvante et étouffante de la ferme, il se fait engager comme soldat et va réaliser son service militaire en Algérie, moment où la guerre évidemment bat son plein. Il en reviendra profondément marqué et peut-être définitivement déraillé, puisque c'est cela finalement que raconte « Nous tous sommes innocents », comment on peut sortir d'une ornière pour aboutir dans un néant qui est une forme de désastre et qui visiblement est inspiré d'une histoire vraie. Nous tous sommes innocents, un texte donc de Cathy Jurado, à nouveau disponible aux éditions Auforge de Vulcain dans leur collection Fiction. Vous êtes toujours à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille sur le 106,6 de la bande FM en DAB+ et sur campuslille.com. Et nous étions en train d'écouter Love is Stronger Than Death, un texte interprété par The. À 16 ans, je plaçais beaucoup d'espoir dans l'écriture. Les ambitions sont toujours plus ou moins stratégiques. Je méditais de longues heures une conjonction de coordination. Cette horlogerie stylistique valait surtout pour l'opacité qu'elle mettait entre moi et les autres. 2000 feuilles ont disparu dans un déménagement vers une maison nouvelle que je n'ai jamais habitée. Fallait-il que ma mère ait été velléitaire dans ses prophéties? Elle me voyait écrivain, mais sans rien faire pour que je le devienne, si ce n'est m'attribuer un rôle dans ses propres romans. Comme on sait, les mauvais romans ne se paient pas moins cher que les bons. Au même âge, je plaçais également un grand espoir dans mon corps. Cet espoir se situait précisément devant le monument aux morts de la gare Saint-Lazare ou face au quai 26 en direction de Rouen. Le premier homme qui m'a proposé 100 francs, je lui garde une certaine reconnaissance. Il m'a semblé qu'il y avait plus de liberté dans mon accord que dans un désir qui le dominait. Sa proposition oblique l'a rendu émouvant. Être payé pour ce qu'on aime, cela s'appelle une vocation aussi. Dans les appartements de pères célibataires, les studios, les cinémas du quartier de l'Opéra, les toilettes des galeries Lafayette, les issues de secours, j'ai rarement connu la peur. J'étais surpris que tant d'hommes soient prêts à payer pour ce que j'aurais offert gratuitement. Aimaient-ils l'adolescent que je paraissais être ou celui qu'ils avaient eux-mêmes été ? La question se pose, mais elle reste sans réponse. Je devais être professionnel, avec une innocence plus ou moins pervertie, selon les termes d'un contrat tacite ou explicite, réglé par avance. Ces billets ont fait des montres Swatch qui allaient sous la douche, des livres d'occasion chez Gilbert Joseph et un crédit illimité de parties de flipper. Ils ont aussi empêché la littérature parce qu'il était difficile d'imaginer des mondes et d'y vivre en même temps. Cette activité du mercredi me rendait trop coïncident à moi-même, me coupant d'une imagination que j'avais grande pourtant. J'ai cessé ce travail sur la terrasse des Tuileries. Christophe était le premier garçon rencontré dans les règles d'une séduction réciproque. J'imaginais un avenir parce qu'il composait pour moi des mélodies sur son synthétiseur. Sur un banc de pierre, nous regardions les hommes se chercher entre eux. Pour une fois, par la magie du chiffre 2, je me sentais hors marché, comme enfant quand je visitais sans rien acheter les halles de Florence avec mes grands-parents. Christophe a repéré un homme devant nous. Sans que rien ne m'y prépare, il s'est levé et a proposé 200 francs pour moi. J'ignore pourquoi j'ai dit non après avoir si souvent dit oui. Peut-être parce que, pour la première, j'ai vu par les yeux de ma mère avec le pressentiment d'un grand danger. En courant vers le métro Palais-Royal, j'ai trouvé les mots manquants d'un poème sur lequel je butais depuis longtemps. Il y était question de papillons, d'oiseaux exotiques et d'animaux sauvages. C'est un poème qui s'intitule « Zion Park » et que je suis seul à connaître. Dans la suite des années, le jardin des Tuileries a vu mes enfants marcher près des balançoires. Dans les années qui viendront, un homme me parlera d'une enfance dans ce quartier. On la mettra ou non, selon son vœu, dans des livres. À Paris, il reste cette possibilité de changer les lieux en modifiant leurs fonctions dans nos vies, ce qui fait que la ville grandit en profondeur et en écriture. Ce qui reste pourrait se dire ainsi. Quand le danger est parti, l'amour est demeuré plus fort. Voilà le chapitre 16 de ce texte de Julien Vitaud, un récit plutôt, vu sa brièveté, intitulé « L'amour est demeuré plus fort » et disponible aux éditions de L'Ogre depuis la mi-mai 2025. Julien Vitaud nous est présenté dans l'argumentaire de presse, il est éditeur et libraire à Paris et dans le Gard. « L'amour est demeuré plus fort » est son premier livre, mais son premier roman, donc un texte j'imagine plus long, sera publié en janvier 2026 aux éditions Verdier sous le titre « Chien ». Au pluriel. C'est un texte donc « L'amour est demeuré plus fort » qui vous raconte en quelques chapitres très courts et qui sont numérotés de façon particulière puisqu'ils ne suivent pas l'ordre classique de la numérotation des chapitres. En effet, les numéros de ceux-ci renvoient à des moments de l'âge, à des moments de vie du personnage principal, du protagoniste, qui nous raconte une initiation à l'amour, une initiation qui est à la fois un ensemble de découvertes successives. On commence à l'âge de 7 ans, avec le chiffre 7 donc, qui ouvre le texte. Et la toute dernière occurrence chiffrée est celle de 54. Et entre 7 et 54, on a donc plusieurs chiffres avec une attention toute particulière qui est placée sur le moment de l'adolescence d'un enfant qui est à la fois habité par la littérature, par la langue, par la poésie. À 7 ans, c'est cela qui nous est raconté avec ce sentiment d'être un imposteur puisque pour faire plaisir à une grand-mère, l'enfant de 7 ans va réutiliser un poème existant de peur de ne pas être à la hauteur de la demande qui lui a été faite. Et puis, parallèlement à cela, donc dans le développement de toute cette histoire et notamment de toute cette adolescence, on aura l'initiation à l'amour à la fois physique, vous l'avez compris, dans le chapitre 16, qui est donc consacré aux 16 ans du protagoniste principal. Il s'agit de la découverte de la prostitution, d'un homme qui décide d'offrir ses charmes contre rémunération, enfin, par la première promesse d'un homme qui lui a offert de l'argent, et en même temps, une initiation qui serait une initiation émotionnelle, puisque chaque chapitre se termine par une formule à peu près identique sur ce qui reste finalement, pourrait se dire ainsi, et on découvre ce qui a été perdu, mais qui n'a pas empêché l'instauration, l'installation et le renforcement de l'amour qui en sort visiblement toujours plus fort. On a beau perdre beaucoup et on perd énormément dans le texte que nous propose Julien Vitto, on perd beaucoup d'innocence dans la découverte de l'amour, mais on y gagne aussi la certitude que malgré toutes les vicissitudes, malgré toutes les craintes, malgré tous les dangers, et dans l'apprentissage de l'amour du personnage principal, de l'amour est demeuré plus fort, il y a aussi bien évidemment la maladie qui va frapper, qui est menaçante, qui est le sida. Et bien, malgré toutes ces menaces, malgré tous ces dangers, malgré toutes ces vicissitudes de la découverte amoureuse et malgré toutes les déceptions qui peuvent l'accompagner, déceptions qui sont aussi bien issues de ceux que l'on rencontre que de celles que l'on porte soi-même, car nous sommes la déception aussi de celui qui nous rejoint et qui nous rencontre, et bien l'amour demeure plus fort, comme si il était toujours plus fort, à l'image de la chanson que je vous ai passé, interprété par The, et que rien ne pouvait considérablement et définitivement le réduire en poussière. C'est un texte qui est donc habité par cette promesse de tout ce que l'amour a à nous offrir, de toutes les possibilités, sans jamais se masquer ni se dissimuler, évidemment, toutes les souffrances qu'il peut apporter, et surtout toutes les multiplicités de formes et d'aspects qu'il peut prendre, puisque déjouant aussi les pronostics et peut-être les ornières qu'on pourrait croire dans cette découverte de l'amour homosexuel, se cache aussi une rencontre amoureuse qui offre au personnage principal la possibilité de devenir père. On a aussi des amitiés évidemment très importantes, très fortes, très intenses, et puis ces amours de passage, ces amours fugitives, ces amours aussi pleines de certitudes et de projections vers l'avenir, avec évidemment aussi la possibilité d'un effondrement, d'une rupture, d'une fin, d'une clôture de ce qui a été promu et espéré. Mais tout ça donne un texte qui est vraiment habité par cette langue et par cette volonté de progresser vers l'amour. Je vous invite à le découvrir, c'est un très beau texte et je regarderai avec beaucoup d'attention la publication évidemment de Chien aux éditions Verdier en début d'année 2026. L'amour est demeuré plus fort, un texte de Julien Vitto, récit disponible aux éditions de L'Ogre. Dans rien, pas de collection, j'étais trop emballé. Je reviens rapidement sur les titres de ce dernier arrache-cœur de la saison. Juste avant, j'ai présenté de Cathy Jurado « Nous tous sommes innocents », une réédition d'un texte de 2015 aux éditions aux Forges de Vulcain dans la collection Fiction. Cela fut précédé de « Rosa » de Maurice Pons aux éditions Bourgois dans leur collection Satellite, un texte qui datait de 1967. Et enfin, j'avais ouvert avec « Rue des Prairies » aux éditions L'Échappée dans la collection Paris perdu, un texte lui aussi originellement publié en 1955 sous la plume de René Lefebvre. Voilà, ces informations, vous les retrouverez sur notre site internet et je vous laisse en compagnie des programmes de Radio Campus Lille sur le 106,6 de la bande FM en DAB+ et sur campuslille.com et je vous dis rendez-vous à la rentrée. Bel été à vous, au revoir.